Radio Prague, les informations.
Bien le bonjour les amis et bienvenue à l'écoute du bulletin d'information de Radio Prague. Les principaux titres ce jeudi. Le Premier ministre italien à Prague ce jeudi. Les salaires des policiers et des pompiers devraient bien augmenter de 10% dès novembre. Et puis en tennis, Plíšková battue en quart de finale à l'US Open perd sa place de numéro 1 mondial. Les possibles solutions à la crise migratoire, la situation en Libye, le projet de défense européenne, la convergence des niveaux de vie en Europe ou encore la coopération bilatérale, tous ces thèmes sont au menu de la rencontre ce jeudi à Prague entre le Premier ministre Bohuslav Sobotka et son homologue italien Paolo Gentiloni. L'Italie est l'un des pays européens où arrive le plus grand nombre de réfugiés et Rome critique régulièrement la République tchèque et les autres pays du groupe de Visegrad pour leur manque de solidarité sur cette question. La Chambre des députés a adopté ce jeudi l'accord conclu entre Prague et Bratislava portant sur une défense commune de l'espace aérien tchéco-slovaque. Le vote n'a pas donné lieu à un débat et 73 des 104 parlementaires présents se sont prononcés en faveur du texte. Personne ne s'y est opposé. Le Sénat ayant déjà approuvé l'accord en juillet dernier, tout comme un peu plus tôt le Parlement slovaque, il reste désormais au chef de l'État Miloš Zeman à le contresigner pour qu'il entre en application. Le ministre des Finances, Ivan Pilný, du mouvement ANO, a eu ce jeudi l'honneur d'une rencontre avec le chef du gouvernement Bohuslav Sobotka, qui poursuit ainsi sa tournée en forme de bilan des différents ministères. Les deux hommes ont assuré que le budget pour l'exercice 2018 serait adopté dans les règles de l'art avant la fin du mois de septembre, et ce malgré les discussions houleuses à propos des hausses des salaires des employés du secteur public. Les salaires des fonctionnaires placés sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, les policiers et les pompiers, devraient justement bien augmenter au mois de novembre de 10%. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre Bohuslav Sobotka ce jeudi après une autre rencontre de bilan avec l'un de ses ministres, en l'occurrence Milan Chovanec. Les deux sociodémocrates rejettent les arguments de certains de leurs partenaires au sein de la coalition gouvernementale qui estiment que ces rémunérations ne devraient pas être réévaluées au prétexte qu'elles l'ont déjà été suffisamment ces dernières années. La rénovation du palais des foires, le Veletajni Palac, principal lieu d'exposition de la Galerie nationale à Prague, dans le quartier de Holešovice, est essentielle pour l'avenir de cette institution. La citation est signée Bohuslav Sobotka, qui après sa rencontre dans la matinée avec le ministre des Finances Ivan Pilný, s'est fendu d'une visite dans le musée. À cette occasion, Jerzy Fajt, le directeur de la Galerie nationale, a déclaré que la rénovation de ce bâtiment de style fonctionnaliste, construit à la fin des années 1920, était en préparation depuis de longues années et que le concours d'architecture devrait être lancé très prochainement. Culture, la 10e édition du festival de musique classique Dvořáková Praha, la Prague de Dvořák, débute ce jeudi dans la salle du Rudolfinum avec l'oratorio Stabat Mater. L'œuvre sera interprétée par un quatuor international composé de la soprano lettonne Kristine Opalais, de la mezzo-soprano slovaque Jana Kurucova, du ténor tchèque Richard Samenk et de la basse allemande René Pape. Du sport à présent et du tennis. Éliminée en quart de finale de l'US Open, la joueuse de tennis Karolina Plíšková a perdu sa place de numéro 1 mondial au classement WTA. La Tchèque, finaliste l'an passé, s'est inclinée ce mercredi soir face à l'américaine Coco Vandeweghe, 22e mondiale, en 2-7, 7-6, 6-3. Après 8 semaines en tête du classement, elle va céder le premier rang mondial à l'espagnol Garbine Muguruza. On termine avec la météo. Ce vendredi, c'est la fête des Marianas et cela n'a aucun rapport avec la météo, au contraire de ce qui suit le temps. Et globalement plutôt ensoleillé en cette fin de semaine avec des phases plus nuageuses ici ou là. Les températures sont douces, elles vont de 19 à 23 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information que vous présentait Pierre Ménian. Merci surtout de rester à notre écoute car notre programme se poursuit en bonne compagnie, puisqu'en compagnie d'Alžběta Rušková.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour et bienvenue chers amis de Radio Prague. Vous écoutez une nouvelle édition de notre magazine consacré à l'actualité tchèque. Avant de passer aux principaux événements de ce jeudi, remercions tout d'abord Pierre Ménian pour son bulletin d'information. Au programme aujourd'hui, la Chambre des députés a levé l'immunité parlementaire d'Andrei Babiš, le président du mouvement ANO et une des figures les plus marquantes de la scène politique tchèque actuelle. La police peut donc déclencher des poursuites judiciaires à l'encontre d'Andrei Babiš, soupçonné de fraude aux subventions européennes. Plus de détails dans quelques instants. Nous vous parlerons ensuite de la toute première participation tchèque à la Coupe Gordon Bennett, une compétition prestigieuse de ballons à gaz, et tout cela avant de passer à notre traditionnelle rubrique consacrée à la langue tchèque. Je vous souhaite une excellente écoute à toutes et à tous. C'est à l'issue d'un long débat mouvementé que la Chambre basse du Parlement a décidé mercredi de priver deux députés, Andrei Babiš et Jaroslav Faltýnek, de leur immunité. Personnage controversé sur la scène politique tchèque, le leader du mouvement ANO, Andrei Babiš, et le vice-président de son parti sont soupçonnés d'avoir détourné des subventions européennes pour financer la construction du Nid de Cigogne, un vaste centre de conférences et de repos situé au sud de Prague. Magdalena Rosinkova.
La voie est donc désormais libre pour que des poursuites judiciaires soient entamées à l'encontre du président du mouvement ANO, une des deux principales formations de l'actuelle coalition gouvernementale qui caracole en tête des sondages à 6 semaines des élections législatives organisées en octobre en République tchèque.
Estimez-vous vraiment que l'affaire du Nid de Cigogne est une affaire criminelle? Ne pensez-vous pas qu'il s'agit là encore d'un procès manipulé qui n'a qu'un seul objectif, influencer le résultat des prochaines législatives? Je veux que mon immunité soit levée pour que la vérité puisse être rétablie.
Dans son discours offensif prononcé devant ses collègues députés, Andrei Babiš a réitéré sa position. Il considère être la victime d'un complot politique. Avant le vote à la Chambre des députés, vote auquel les députés ANO ont refusé de participer, le président et le vice-président du mouvement ont accusé la police et le parquet de mensonges. On écoute Jaroslav Faltýnek.
Nous avons affaire à une tentative non démocratique de manipuler les élections, tout cela avec l'assistance des organes de police.
Une situation quelque peu paradoxale selon les commentateurs qui remarquent que depuis mars 2015, c'est Robert Pelikan, un des membres du mouvement ANO, qui occupe la tête du ministère de la Justice. Le ministre de l'Intérieur, le social-démocrate Milan Chovanec, a aussitôt réagi.
Si vous avez vraiment des preuves d'une défaillance des institutions, je vous invite à les mettre sur la table ou alors adressez-vous directement à ces institutions, comme nous le faisons dans un état de droit.
Le chef de la police de Prague, Miloš Trojánek, a lui aussi réfuté l'idée selon laquelle l'affaire du Nid de Cigogne aurait été déclenchée suite à une commande politique.
La police de Prague est apolitique. Dans son travail, elle s'appuie uniquement sur les normes juridiques en vigueur dans l'État tchèque.
Les probables poursuites judiciaires contre deux dirigeants d'ANO, le grand favori des élections législatives prévues pour les 20 et 21 octobre, auront probablement des retombées sur les préférences des électeurs tchèques. Selon le politologue Daniel Kroupa, le scandale risque même d'influencer le comportement des sympathisants d'Andrei Babiš, cet homme d'affaires influent qui, pendant la campagne pour les précédentes élections, a séduit une bonne partie de la population par son discours anticorruption. Daniel Kroupa.
Je pense qu'une partie des partisans d'Andrej Babiš se tournera vers les autres mouvements politiques anti-système, notamment vers le parti de Tomio Okamura, SPD, le parti pour la démocratie directe. Mais je ne crois pas que cette affaire puisse causer une perte significative au mouvement ANO. Pour autant, chaque pourcentage est important dans les négociations post-électorales. Le Parti chrétien-démocrate ainsi que les autres partis déclarent d'ores et déjà que former un gouvernement avec ANO ou avec Andrej Babiš est pour eux hors de question. Bref, ces négociations pourraient être très compliquées.
Pour le journaliste et commentateur Jindřich Šídlo, la scène politique tchèque vit décidément une situation sans précédent.
Un mois avant les législatives, celui qui est pressenti pour devenir le Premier ministre risque d'être inculpé. C'est quelque chose que la République tchèque n'a jamais vécu. Si ANO remporte les élections, cela posera un sérieux problème pratique pour l'exercice du mandat de chef du gouvernement. Il est tout à fait possible que cette affaire se poursuive pendant plusieurs années, peut-être même jusqu'à la fin du mandat du prochain gouvernement, donc jusqu'en 2020-2021. En tout cas, nous ne pouvons pas espérer que l'affaire soit élucidée dans un proche avenir.
Par ailleurs, la nouvelle Chambre des députés issue des élections législatives d'octobre prochain devra fort probablement se prononcer elle aussi sur l'immunité parlementaire d'Andrej Babiš et de Jaroslav Faltinek, immunité qu'ils obtiendront de nouveau en cas de réélection.
L'édition 2017 de la Coupe du Monde de ballon à gaz, la Gordon Bennett, débutera ce vendredi en Suisse. Et pour la première fois de l'histoire, une équipe tchèque prendra part à cette prestigieuse compétition aéronautique à la tradition centenaire. Jan Smrčka et Aleš Vašíček, alias deux barbus dans le ballon, réaliseront ainsi leur grand rêve de voler sous le drapeau tchèque afin de promouvoir ce sport quasi inconnu dans leur pays d'origine. Surtout, ne confondez pas ballon à gaz et montgolfière. Tandis que l'enveloppe de cette dernière est gonflée d'air chaud, le ballon à gaz contient, lui, un gaz plus léger que l'air. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une trentaine de ces ballons à gaz dans le monde. Ce faible nombre n'empêche pas leurs pilotes de se réunir chaque année dans le cadre de l'illustre Gordon Bennett, une compétition qui porte le nom de son fondateur, un homme de presse américain et mécène des sports automobile et aérien. Fondée en 1906, la Gordon Bennett est la compétition aéronautique la plus ancienne dans le monde du ballon. Sa règle est simple, le vainqueur est celui qui parcourt la plus grande distance. Cette année, 22 équipages en provenance de 13 pays prendront leur envol depuis l'aérodrome de la Gruyère. Parmi eux, les deux pilotes tchèques en activité. Tandis que Jan Smrčka a découvert le ballon il y a 33 ans de cela, Aleš Vašíček, journaliste, photographe et explorateur, n'a lui commencé que 30 ans plus tard, après avoir rencontré son collègue plus expérimenté sur le tournage d'un reportage. Leur participation à la Gordon Bennett a été précédé de longs mois d'un entraînement intensif en Italie et en Allemagne, ainsi que par la recherche de sponsors. Le vol en ballon nécessite en effet un équipement de qualité, comme l'affirme Aleš et Jan.
Il faut avoir un transpondeur qui permette aux contrôleurs aériens de vous identifier. Nous devons aussi avoir des radios de communication pour pouvoir les contacter, différents systèmes de navigation ou bien un téléphone satellite pour pouvoir contacter notre équipe de terre. Il faut penser aussi à beaucoup d'autres détails qui nous sont indispensables, comme par exemple une torche électrique.
En raison du manque d'oxygène, nous devons aussi être équipés d'un système d'oxygène. Nous avons des vêtements chauds puisqu'ils gèlent à une altitude d'environ 5000 mètres et que nous ne pouvons pas trop bouger. Et nous devons aussi avoir de quoi manger.
Tohleto samozřejmě potřebujeme se najíst.
Tout au long de la compétition qui s'étale sur plusieurs jours, les pilotes doivent veiller à ne pas heurter d'obstacles, qu'il s'agisse de lignes électriques, de pentes de montagne ou même d'avions. Jan Smrčka explique comment piloter un ballon à gaz.
Quand vous allégez le ballon, il monte en altitude, prend de la vitesse et tourne légèrement à droite. Et quand vous descendez, la vitesse diminue et le ballon se met à tourner à gauche. En appliquant ces règles, vous essayez de conduire le ballon dans la direction souhaitée.
Pour l'équipe tchèque, la concurrence sera grande. Les favoris, parmi lesquels notamment les Suisses et les Français, parcourent en effet une distance de plus de 1000 km. Le record de la compétition, qui remonte à 2005, est détenu par des Belges qui, depuis la ville américaine d'Albuquerque, ont parcouru quelque 3400 km pour atterrir au Québec. Aleš Vašíček indique quelle est selon lui la clé du succès.
C'est notamment l'expérience du pilote qui sait apprécier les conditions météorologiques et trouver le chemin qui permettra de voler le plus loin possible.
Partant de Suisse, les deux Tchèques pourraient-ils donc arriver jusque dans leur pays natal, Jan Smrčka?
Nous pouvons nous dire de voler dans la direction de la Tchéquie, mais nous pouvons ne pas réussir. Même si les conditions étaient favorables, nous devrions faire beaucoup d'efforts pour trouver la bonne direction. Vous ne savez jamais comment votre vol va finir, c'est une improvisation. Vous devez comprendre les lois de la nature et savoir agir en fonction d'elles. Quand vous respectez cela, vous êtes libre comme nulle part ailleurs. C'est ce qui me plaît sur les ballons.
Le projet des deux barbus dans le ballon ne s'arrête pas à leur participation à la Gordon Bennett. Le vol et les préparatifs pour la compétition feront l'objet d'un film documentaire préparé par les pilotes tchèques eux-mêmes. C'est la fin de ces faits événements. Vous écoutez Radio Prague et on passe à la rubrique Le Tchèque du bout de la langue, animée par Guillaume Narguet.
Le Tchèque du bout de la langue.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
En fait, ce dialecte, c'est le tchèque qu'on a appris. C'est-à-dire que pour nous, c'est pas un dialecte. Pour nous, c'est le tchèque. Et après, c'est plutôt quand on va à Prague que ça nous semble bizarre comment ils parlent. Voilà, ils ont un accent différent, ils ont des mots différents.
Lors de notre dernière rubrique, nous avions donné la parole à Emmanuel et à deux de ses amis francophones qui vivent à Ostrava pour qu'ils nous parlent de leur apprentissage du tchèque ou, comme ils l'affirment eux-mêmes, de
l'ostravština,
soit l'ostravien, un mot inventé par nos soins et pas très joli d'ailleurs, pour désigner le dialecte de la ville d'Ostrava et de la région de Moravie-Silésie. La Moravie, nous allons y rester en descendant néanmoins vers le sud-ouest et sa capitale,
Brno.
Et ce pour y découvrir un autre dialecte que ses habitants, et plus généralement les Tchèques, appellent le
Brněnský hantec,
que l'on peut désigner lui aussi comme le patois de Brno. A fojárů, co počpila se měli špicové moravské hrnek, ale sajzlovské bazmek byl furt vylágrovaný. Tak kingoška libu nahokla do lifrovat nabitýho přebuvoráča. Borci mazali na tutáč, až přebu dotlačili. Zmákl tak bytelné vocht, že celá moravská sajtna zadula. Přema na špilás, tam se s libou ovoloval a bačoval jak těžké king. Loin de nous l'idée de vouloir faire la promotion d'une marque de bière. Néanmoins, il y a quelques années de cela, la grande brasserie de Brno, appelée
Staro Brno,
littéralement Vieux Brno, avait diffusé sur les chaînes de télévision nationale une série de spots publicitaires dans lesquels sa production était mise en valeur dans le parler local, à savoir donc le
Brněnský Hantec.
Le tout avec des sous-titres de façon à ce que le Tchèque de Prague, Plzeň, Liberec ou České Budějovice puisse comprendre. La preuve, si besoin en est, que ce parler de Brno est bien particulier et que le mot qui le désigne
Hantec
ne figure pas dans le dictionnaire, ou tout du moins pas dans les dictionnaires dont nous disposons. Son origine se trouve néanmoins assez facilement dans le mot
Hantýrka,
qui désigne tout à la fois un patois, un jargon ou un argot. Par exemple, ce que l'on appelle en français l'argot des prisons ou l'argot carcéral se dit
Vězeňská hantýrka.
Mais le
Hantec
de Brno est davantage que de l'argot ou un jargon. Bien qu'il ne soit pas reconnu comme une langue à part entière, il s'agit d'un dialecte qui, ne serait-ce que dans sa version traditionnelle ou historique, est difficilement compréhensible pour les autres Tchèques. C'est d'ailleurs ce que reconnaît Zuzana Cirlažová, professeure de français dans un lycée de Brno, lorsque lui est posé la question de savoir comment les étrangers qui viennent s'y installer s'intègrent à Brno.
Je dirais que peut-être le plus grand obstacle reste la langue, même si il y a maintenant des programmes d'insertion pour les étrangers, pour les jeunes à la fac, mais aussi pour les expatriés. Je sais que la mairie de Brno organise aussi un service particulier. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut poser problème. Mais à part ça, je pense que les gens avec lesquels je parlais se plaisent. J'en connais beaucoup qui sont venus juste pour passer un peu de temps et sont restés. Parce que le rythme de vie, les activités, les relations entre les gens, ça leur a plu.
En réalité, ce ne sont bien entendu pas des cours de
Hantec,
mais bien de Tchèque que la municipalité de Brno propose aux nouveaux arrivants. Ne serait-ce déjà que pour leur apprendre à prononcer correctement le nom de la ville, comme s'en amuse Zuzana Lubedelbel, native de Brno, elle aussi professeure, mais d'histoire-géographie dans un lycée parisien.
Effectivement, pour un Français, c'est assez difficile à prononcer. Donc, quand on dit la ville de Brno, ceux qui parlent allemand en général y arrive un peu mieux. Sinon, pour expliquer en français, je dis que c'est une ville qui se trouve près d'Austerlitz, alors qu'il a 400 000 habitants à Brno, il en a 20 000 à Austerlitz, parce qu'ils connaissent bien sûr la bataille d'Austerlitz, même s'ils ne savent pas toujours que cette bataille a eu lieu en République tchèque, ou à l'époque dans l'Empire autrichien. Et en fait, pour le dire plus précisément, le plus simple, c'est de dire qu'elle est entre Prague, Vienne et Bratislava. Quelque part, si on fait un triangle entre les trois villes, on trouve Brno au milieu.
Comme souvent, lorsqu'un mot est composé d'une suite de consonnes difficiles à sortir de la bouche sans risquer un claquage de la langue, les Tchèques cèdent en intercalant un E muet entre deux consonnes. Dans le cas de Brno, ce E muet se trouve, vous l'avez peut-être reconnu ou entendu, entre les deuxième et troisième consonnes. Quant à l'étymologie, si elle fait l'objet de certaines controverses, l'hypothèse la plus probable veut que le mot Brno donc provienne du vieux tchèque
Brnen, Brno,
du vieux tchèque qui signifie
hlinitý, blátivý, bažinatý,
c'est-à-dire en français argileux, glaiseux, boueux, marécageux. Et quid de ce dialecte ou patois spécifique à Brno, nous direz-vous? Sachez donc que le
« hantec »
est issu à la fois de la langue tchèque telle qu'elle est parlée en Moravie et des langues des autres résidents de Brno, notamment des Allemands et des Juifs, bien plus nombreux autrefois qu'ils ne le sont aujourd'hui. Il en est ainsi pour quelques-uns des mots les plus connus de
« hantec »
comme
« chalena »
qui tire son origine de l'allemand
« elektrische linie »
et désigne un tramway ou encore
« zontna »
pour « soleil » de l'allemand
« sonne ».
Se fait sentir également l'influence du romani comme pour
« love »
par exemple, qui n'a rien à voir avec le « love », l'amour des anglophones, puisque le mot désigne de l'argent, du fric. Plus proche géographiquement de Vienne que de Prague, Brno, la Morave, est une vraie ville d'Europe centrale, comme le confirment nos deux Zuzana, et cette diversité et richesse culturelle se retrouvent bien entendu dans le parler local.
On sent en tout cas la proximité de la Slovaquie par le nombre de Slovaques dans les rues de Brno. Quand on se promène à la piscine, dans le magasin, j'ai entendu déjà parler slovaque. Il y a aussi beaucoup d'étudiants slovaques parce que c'est le cas de toute la République tchèque. Ils n'ont pas de droit d'inscription à payer. Ils peuvent étudier dans leur langue. Donc il y en a beaucoup qui font leurs études en République tchèque. Après, l'influence de Vienne, donc il y a déjà l'influence architecturale dont nous avons parlé. Souvent, quand on a parlé du cimetière juif tout à l'heure, ou aussi les cimetières un peu plus anciens, on y voit sur les pierres tombales beaucoup de noms allemands. Donc effectivement, on sent qu'il y a eu cette présence allemande très importante avant la Seconde Guerre mondiale.
Oui, c'est ce que j'ai voulu dire, qu'en fait Brno était souvent considéré comme une banlieue de Vienne presque, et on le voit surtout dans l'architecture, beaucoup d'étrangers disent que ça ressemble beaucoup par le style du centre-ville, que Brno ressemble plus à Vienne qu'à Prague par l'ouverture, la largeur des rues et beaucoup de maisons du début du siècle. Il y a beaucoup de bâtiments en art nouveau. Parce que aussi c'est la période peut-être de la plus grande prospérité de la ville, avec l'essor industriel de la fin du 19e et début du 20e siècle. Et en effet, à Brno, il y avait une très très importante minorité, presque majorité, germanophone, expliquée d'un côté par la proximité de l'Autriche, et aussi par des rapports historiques depuis des centenaires, en fait. Brno était une ville beaucoup plus allemande que Prague dans l'histoire. Par exemple, la rue piétonne principale, qui s'appelle la rue tchèque, Česká, s'appelle ainsi parce que le centre-ville était habité surtout par des Allemands. Et dans cette rue-là, c'était la seule rue au centre-ville habitée ou essentiellement habitée par les Tchèques.
Très pratiquée au tournant des 19e et 20e siècles, notamment dans les couches de la population les plus populaires, le
« hantec »
est cependant devenu nettement moins courant aujourd'hui et il n'en reste finalement plus essentiellement que l'usage de quelques mots qui font néanmoins toujours le charme de Brno et tant pis pour les habitants de
« Prague »
Prague qui ne les comprennent pas, ou tant mieux, c'est selon bien entendu le point de vue.
C'est donc la fin de ce programme qui vous était présenté par Alžběta Rušková. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site de Radio Prague au www.radio.cz/fr ainsi que sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Ahoj!